Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter aussi sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, autour de la table, nous sommes avec Marie Marquet. Bonjour.
Bonjour. Oui.
Marie, spécialiste en teinture, recherche de teinture, scientifique aussi.
Oui. Donc, je fais de la teinture végétale. J'ai déjà eu l'occasion de venir à la radio parler de l'histoire du textile, la façon dont on faisait les couleurs autrefois et de l'usage de toutes les plantes qu'on peut récolter pour cette histoire de la couleur végétale.
Et puis aussi Colin Levenberg, bonjour.
Bonjour.
Alors Colin, comment dire, poète, touche à tout.
Ouais, par exemple... Artisan, bricoleur, dans le bois surtout, et aussi le métal et le travail et la transformation de la matière première.
Et donc tous les deux, vous êtes ici pour nous annoncer l'Assemblée Générale de l'association qui s'appelle Sources et Racines et qui aura lieu le 8 mars à la salle Joseph Reynaud à Die. Alors cette association, pourquoi l'avoir créée ?
Alors effectivement, c'est la première année d'existence de cette nouvelle association qu'on a fondée avec un collectif de personnes tout à fait hétéroclites et en même temps qui vont très bien ensemble. Mmh. Et son objectif, c'est de nous rassembler pour pouvoir travailler sur à la fois les savoir-faire naturalistes, c'est-à-dire la botanique, la géologie, la connaissance de la faune et de la flore, mais aussi sur les savoir-faire techniques qui vont avec l'utilisation de toutes ces ressources. Donc le patrimoine qui est lié à ces connaissances, comme par exemple Colin, comme par exemple des techniques anciennes, reconstituer des savoir-faire préhistoriques.
Ou historiques.
Ou historiques.
Ouais.
Des savoir-faire artisanaux.
Par exemple, si je prenons le bois, là j'aimerais mener une étude d'ailleurs sur le sujet avec l'association en l'occurrence, et je profite des ondes de la radio pour en parler, c'est autour du cintrage du bois, qui est encore pratiqué, je sais, par certains éleveurs, pour les brebis par exemple, pour les colliers de chèvres. Donc, moi, ça m'intéresse de voir. On parle d'ethnologie. Du coup, c'est certaines essences de bois, c'est certaines populations qui travaillent encore ces matériaux. Et si quelqu'un pratique ça, qu'il prenne contact avec l'association par le biais de la radio éventuellement.
Le titre « Sources et racines » veulent bien expliquer ce qu'on va pouvoir trouver dans cette association. Une source d'inspiration sur l'histoire et puis le territoire aussi en tant que matière même.
Ouais, tout à fait. Et donc, « Sources et racines » et au sens propre et au sens figuré finalement. On peut dire parce qu'on... On parle comme l'a dit Marie, et en d'autres mots, on parle des interactions entre les différents règnes sur cette planète et, en l'occurrence, à un niveau local, avec tout le brassage que ça implique. Donc, les sources et l'eau, les racines, les plantes et interactions vitales et d'un point de vue figuré, si on parle d'ethnologie, on va aux sources d'un savoir-faire ou de coutume. On va aussi aux sources des essences, à l'essentiel des plantes, à l'essentiel des pierres, des paysages, des roches titaniques qui nous entourent de ce beau Vercors. Et voilà.
Bon, avant de continuer, on va aussi présenter les autres membres du conseil d'administration de cette association. Marie, est-ce que tu peux nous les citer ?
Oui, alors du coup, on s'est rassemblés avec plusieurs personnes qui ont cette affinité avec un regard sur le paysage, sur le territoire et sur les pratiques. Donc, il y a dans notre CA Jean-Claude Rouchouze, qui est une personne qui travaille depuis très longtemps sur le territoire, à la fois intéressée par la mycologie, par la connaissance des plantes, par une exploration de tous les poissons qu'il y a dans tous les affluents de la Drôme, puisqu'il fait partie de la société de pêche. Et c'est aussi quelqu'un qui a fait une très grosse étude sur la géologie de tout le paysage, donc qui fait des sorties géologiques. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de l'animation, de la transmission autour de ces sujets, et qui par ailleurs a été très moteur pour faire exister une fête mycologique à Die. Et il se trouve que donc maintenant, c'est grâce à l'association Sources et Racines qu'on pourra prolonger l'existence de cette fête mycologique, puisqu'elle va être portée par Sources et Racines, comme ça a été le cas en septembre. Donc voilà, Jean-Claude. Ensuite, on a aussi avec nous Grégory Lemoine, que les anciens d'Ivoire ont certainement déjà rencontré autour de la botanique et de l'usage ethnobotanique des plantes. Donc, qui a des savoirs à la fois d'enquête, de collectage de traditions et aussi de botanique pure, c'est-à-dire d'identification des plantes, et qui a déjà conduit plusieurs recherches sur le territoire. Et puis, on a aussi avec nous Vincent Paltera, qui lui a une pratique agricole et qui est du territoire et qui s'intéresse beaucoup à l'histoire du paysage, l'histoire des pratiques sur le territoire par rapport au savoir-faire agricole, à la transformation du paysage. Et on a encore Alison Marshall, qui, elle, a été anciennement animatrice nature et qui est enseignante et qui a une vocation à transmettre, à faire connaître des choses autour de la nature et de ses usages par les humains, aux grands comme aux petits. Donc voilà. Ouais. Et j'espère que j'ai oublié personne. Quelle horreur.
Non, tout va bien.
Non, tout va bien. Personne. Voilà, on est six. Donc ça, c'est notre équipe de fondation. Ouais. Et ensuite, l'association, elle a comme objectif... Donc, on a monté la structure de manière collégiale. On arrive tous avec des parcours très ciblés, chacun avec des savoirs sur des sujets un peu pointus. Et en même temps, avec l'envie de créer des moments d'interaction. Qui peuvent inclure des nouvelles personnes qui viendraient juste pour un sujet qui les intéresse, travailler sur les plantes, sur la couleur végétale, sur la géologie, sur l'organisation d'un événement comme par exemple des marchés de connaissances ou des temps d'échange. Donc on a l'envie que ce soit assez ouvert. Donc la gestion collégiale, elle nous permet tous d'être ressources sur ce qu'on va monter et dans le cadre de cette association. Et donc notre CA qui aura lieu, notre AG qui aura lieu le 8 mars à 18h30 à la salle Joseph Reynaud. C'est l'occasion aussi de vous rencontrer, de rencontrer les gens qui auront envie de venir justement amener des sujets et qui auraient besoin de cet espace aussi pour nouer des échanges. Donc ça peut être sur la faune, sur la flore, sur des pratiques anciennes, sur la connaissance du territoire. Donc voilà, on a vraiment envie de créer un espace d'échange.
Vous êtes en recherche donc de personnes ayant des connaissances aussi du territoire et de manière de vous enrichir et puis aussi d'enrichir cette démarche.
Comme je disais tout à l'heure, avec les éleveurs ou les bergers qui cintrent les bois pour le collier de chèvre, c'est eux les spécialistes de ce domaine-là. Par tradition, on va dire, réplique des gestes. Donc ces gens-là, là en l'occurrence c'est ce sujet-là, mais pour d'autres sujets on peut avoir à rechercher. Toujours dans le domaine du cintrage, par exemple, c'est aussi utilisé dans la fabrique des instruments de musique, les éclises de guitare, de violon, etc. Et je sais qu'il y a eu des facteurs d'instruments, et il y en a encore. Donc voilà, tous ces procédés, nous on a envie de les recueillir, de les publier, voir, et de les partager, quoi.
C'était pour ajouter qu'en fait, effectivement, l'objet de l'association, en fait, on a tous déjà parcouru des petits bouts de chemin autour de techniques et autour de savoir-faire ensemble. Là, on se rassemble. Et en fait, l'idée, c'est de faire vraiment émerger les projets qui, à ce moment-là, nous intéressent et peuvent permettre de creuser un sujet. Donc, par exemple, avec Colin, on a beaucoup travaillé sur les techniques de l'impression. Moi, ma spécialité, c'était de produire, du coup, les encres, les couleurs qui servent à imprimer. Colin a la spécialité de fabriquer des tampons et des,
bois, ouais.
Voilà, des gravures sur bois. Et voilà, donc c'est un exemple d'un projet qu'on pourra présenter à l'AG. Je te laisse
de
en dire
long terme,
plus.
Ouais. Ben ouais, c'est la, comment on dit, la connexion entre différents savoir-faire sur des savoir-faire aboutis avec un nombre d'étapes important et tout seul, on est un peu perdu. On est souvent soumis aux produits du commerce qui sont pas terribles, qui sont polluants, qui sont pas forcément jolis, etc. ou qui sont très éclatants. Et là, bah, chez moi, avec trois plantes que je suis allé récolter, sur les bons conseils de Marie, les recettes et éventuellement quelques ingrédients, je réalise des impressions de gravure et c'est une activité plaisante. De par le partage aussi.
Si je comprends un peu ce que ton rôle, c'est de mettre en application des idées qui émanent de sources et racines pour créer des objets, par exemple.
Ça pourrait éventuellement, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'une réplique de tel outil, c'est vrai que c'est aussi ma spécialité de travailler le bois comme ça, par exemple, ou le métal. Mais non, c'est c'est aussi une envie quoi. Tiens, j'ai envie de graver une fleur avec telle couleur, telle technique, etc. Et tout seul, je peux pas le faire. Avec du monde, vous verrez ce que ça donne.
Et je reviens vers Marie. Toi, tu es dans la teinture, spécialisée dans les teintes, dans les plantes teintoriales, on dit, hein, c'est ça. Tu pratiques aussi, je crois, le traitement de la laine, hein, dans la teinture. Donc, ça nécessite quelques outils parfois, mais je pense, je ne sais pas, comme je pratique pas, par exemple, la machine à filer ou des choses comme ça. Est-ce que vous faites de la recherche de matériel ou voire de créer des outils.
Oui, c'est bien que tu poses la question. C'est vrai qu'on a eu beaucoup cet échange-là, justement, qui est peut-être dans les prémices de la fondation de l'association, du fait que quand on pratique un artisanat, comme par exemple la transformation de la laine et la teinture, il y a un certain nombre d'outils, notamment des outils en bois anciens, parce que moi j'étais sur le côté reconstitution. Ces outils, ce n'est pas mon corps de métier, c'est des outils qu'il faut faire avec des techniques de menuiserie qui ne sont pas du tout dans ma connaissance. Et c'est vrai que, par exemple, Colin a parfois souvent été là pour réaliser ces outils pour permettre ensuite que moi j'aie l'activité de transformation que j'avais envie de conduire pour reconstituer des techniques anciennes. Voilà. Donc effectivement, on a cette espèce de synergie et on peut la voir sur plein de sujets. On s'est aussi rencontré avec Jean-Claude Rousselouze autour des champignons, puisque lui avait cette connaissance de la mycologie locale. Il connaissait le paysage et les endroits avec leurs différentes stations, avec des espaces de récolte très très différents suivant les espèces. Et moi, j'étais en recherche d'espèces pour faire de la couleur. Donc, on a travaillé ensemble, on a fait des récoltes, donc ça a fait une synergie. Et les deux précédentes fêtes mycologiques, on a eu l'occasion du coup de présenter à la fois, lui, il portait vraiment le fait de mettre en place la fête mycologique avec tout un groupe de bénévoles qu'il faut saluer ici parce qu'il y a un grand nombre de gens qui le soutiennent et qui sont maintenant attachés à Sources et Racines aussi. Et qui ont vraiment fait que l'événement a duré. Et puis moi, j'ai présenté du coup les résultats obtenus avec les champignons pour faire de la couleur. Donc voilà, notre association, elle est là pour travailler sur ces sujets de l'homme et de son environnement et de ses ressources, et toujours dans des synergies sur des thématiques qui émergent, juste parce que voilà, on est à un moment sur des sujets qui se rencontrent, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est des sujets qui se rencontrent pareil qu'avec Grégory pour la reconnaissance des plantes. Hop, on veut savoir telle essence d'arbre, ça s'appelle une essence. Quelle est-elle? Quelle est sa spécificité botanique? Eh, c'est quand même cool d'avoir affaire à un ethnobotaniste.
Oui, c'est des usages anciens. Ouais. Est-ce que toi, si tu veux faire un truc en bois, ce sera la bonne essence par rapport aux usages connus?
Ou le reconnaître dans la nature, etc. aussi. Ouais.
Et toi, Marie, ayant des connaissances en chimie?
Oui, alors c'est vrai que là, on est plus sur, je dirais, le côté partage de connaissances et un peu exploratoire. Sur le côté plus, je dirais, analyse et tout ça. Mais c'est vrai que potentiellement, ça peut nous servir à un moment ou à un autre, suivant les projets.
En fait, cette association, c'est une articulation de connaissances très diverses et vous êtes en recherche encore d'autres connaissances. Par exemple, l'élevage. Est-ce que vous pratiquez cet échange avec des éleveurs ou des bergers ?
On pensait avec Evelyne qui était avec nous à un moment donné, les usages des plantes pour les animaux. Ouais, il y a des... Mais sinon, c'est pas notre spécialité, l'élevage, pour autant. Mais toutes les interactions sont quand même possibles.
Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre possibilité que vous espériez traiter, mais dont vous n'avez pas forcément les compétences ?
Ah, oui. En fait, pour l'instant, on part plutôt sur ce qui vient. On n'est pas tellement dans l'attente d'un... En fait, on a chacun, disons, des pistes sur lesquelles on marche et ça crée des connexions. Et donc, en fait, l'association, on la voit comme un cadre qui va nous permettre de porter plusieurs projets dont on peut peut-être faire la présentation. Mm-hmm. Et ensuite, donc, dans les gens qui auront envie de s'agréger, en fait, il n'y a pas d'attente de la part de notre collectif. Il y a plus une porte ouverte pour pouvoir effectivement... créer une synergie sur des échanges de connaissances qui utilisent les matières, les ressources naturelles et des savoir-faire techniques un peu précis, un peu anciens. Et donc, dans les projets, par contre, qu'on va développer cette année, il y aura effectivement des temps d'échange et de balades, des balades auxquelles les personnes pourront s'inscrire en avance. Pour venir découvrir le paysage. Jean-Claude Rouchous, qui s'intéresse beaucoup au biotope que représente la rivière, fait des sorties autour des castors. Donc, il va pouvoir encadrer des sorties pour aller voir des endroits où vivent les castors et observer leurs traces, etc. Ça, ce sera pendant le mois d'avril. Il est possible qu'il y ait aussi des balades botaniques, donc plus par exemple pour aller voir les orchidées à un certain, enfin au début du printemps, ou d'aller voir ou même plus tard,
différentes plantes qui bordent nos chemins et nos prés quoi, et nos forêts.
Voilà, aller faire des sorties botaniques. Donc, on va organiser des balades qu'on fera connaître à toutes les personnes qui veulent participer par mail. Donc, l'intérêt de se faire connaître auprès de nous, c'est de savoir qu'on va vous informer par mail surtout, parce qu'on n'a pas forcément prévu de faire beaucoup, disons, de communication, d'affichage, à part peut-être sur les modes les plus...
Sur les gros événements.
Voilà, sur les gros événements. Donc voilà, si vous voulez être informé, par exemple, de ces sorties botaniques ou naturalistes, il faut nous envoyer un mail. Après, il y a un projet d'exposition art et nature pour pouvoir mettre en valeur, en fait, justement, des travaux croisés où on voit d'un côté un savoir-faire qui est utilisé pour une création et de l'autre côté, la façon dont il puise dans la nature comme inspiration ou comme ressource. Et puis après, on a un projet qui est un peu aussi à l'origine de notre fondation. C'est la fête d'automne qui aura donc lieu à nouveau cette année les 19, 20 et 21 octobre. Donc c'est pas tout de suite, on reviendra en parler. Mais ça, c'est un gros événement pour nous parce qu'en fait, c'est l'occasion de montrer les compétences de chacun. Il y a une complémentarité qui se fait. Donc, à cette occasion, on installe, donc il y a la fête avec les champignons, l'aspect mycologique. Il y aura aussi des choses sur les arbres, sur les baies d'automne, sur les fruits d'automne, comme on l'avait fait l'année dernière, sur le bois, et aussi sur tous les sujets. Ce septembre qui vient de passer, là, on avait par exemple cherché des crânes et des déjections et des crottes d'animaux pour que les enfants des écoles puissent venir voir et connaître qu'est-ce qu'on trouve dans la nature qui nous permet d'identifier... Des animaux qu'on ne va pas forcément voir vivants. Donc voilà, dans le salon d'automne, il y aura tout ça. Et un autre axe de notre travail, c'est le travail sur les plantes, sur la botanique, les collections ethnobotaniques. Et donc, on est en train de réimplanter nos jardins ethnobotaniques sur lesquels on a longtemps travaillé, des collections de plantes qui sont très signifiantes du point de vue de l'histoire des usages des plantes. Et donc, on est en train de chercher un nouveau lieu pour les installer. Donc, c'est en cours. Donc, prochainement, vous pourrez être informé de l'endroit où on pourra à nouveau visiter ces collections et avoir peut-être des ateliers en lien avec ces collections de plantes vivantes qui sont
Adi.
Voilà, Adi, et dans lesquels on fera des ateliers, comme on en a fait par le passé, sur les teintures, sur l'impression, sur la fabrication de baumes ou d'usage cosmétique de ces plantes. Ou...
Je voulais savoir, il me semblait qu'il y avait des insectes exposés aussi. Est-ce qu'il y a parmi vous un spécialiste des insectes qui gère ça alors?
Je pense que c'est Jean-Claude Rouchouze, ouais, qui est...
Alors pour l'instant, c'est Jean-Claude qui a des belles collections.
Ouais.
Ce qui était sympa, c'est que les enfants ont apporté aussi des collections d'insectes qu'ils avaient, parce qu'il y a quelques enfants aussi qui sont en synergie avec nous. Il n'y a pas que des adultes. Et donc, les enfants ont aussi amené des insectes qu'ils ont récoltés. Mais effectivement, il pourrait très bien y avoir des spécialités supplémentaires et l'entomologie, ça pourrait être sympa. De même que Jean-Claude se sent souvent un peu seul pour la détermination des champignons. Alors moi, j'essaye de l'aider un peu, mais je m'y connais plus en lichen. Et c'est vrai que s'il y avait d'autres bons mycologues, experts pour l'aider, ça serait sympa pour l'automne.
Je pensais aux insectes, parce que est-ce qu'on a vraiment exploité un savoir-faire des insectes pour travailler
En Australie, ouais, les didgeridoos, c'est des termites qui creusent les...
Moi, je pense au miel, hein, tout simplement, déjà avec les abeilles, on peut citer ça.
Ah, la cire, les vernis aussi sont des cires produites par des insectes.
Alors Vincent, qui est dans notre CA, il est apiculteur. Du coup, sur le côté abeille, c'est vrai qu'il y a possibilité aussi qu'un jour, il puisse, par exemple, accueillir des personnes pour faire une visite des ruches et présenter un peu les abeilles. Mais c'est vrai qu'il y aurait plein d'autres choses. Ici, dans le Diwa, on est dans une faune très spécifique où il y a effectivement des phasmes, des mantes religieuses, enfin beaucoup d'insectes quand même qu'on ne voit pas non plus n'importe où. Et ça pourrait être intéressant, effectivement, de présenter plus ça.
On va parler aussi de Grégory Lemoine. Quelle est son implication dans l'association, donc ?
Oui, alors Grégory, ça fait longtemps qu'il est sur le territoire. Du coup, il a déjà, effectivement, été porteur de plusieurs projets, dont un projet autour des jardins ethnobotaniques. Et il avait mis en place une collection de plantes qui était à un moment à l'ancien monastère de Sainte-Croix. Il organise par ailleurs avec son association des stages et des formations autour de la consommation des plantes sauvages et autour des usages des plantes cueillies dans la nature. Et son implication, elle est à plusieurs titres. D'abord, il est dans les membres fondateurs, dans les personnes qui ont eu envie de lancer ce projet pour faire émerger des temps d'échange naturalistes et aussi par rapport à l'idée du coup de refaire vivre un espace de jardin ethnobotanique qui permettrait d'aller à la rencontre des plantes anciennement utilisées pour des usages alimentaires, médicinaux, etc. Donc ensemble, on porte vraiment le projet de faire vivre un espace de jardin dans lequel il y aurait des visites et des possibilités de rencontres avec le public, notamment en été, et notamment aussi vers des gens qui ne sont pas du territoire, de façon à ce qu'ils puissent, quand ils viennent visiter pour prendre connaissance dans un seul lieu de tout le potentiel que les gens ont exploité autrefois sur ce territoire, parce qu'il y a une faune, enfin il y a une flore très très riche, et il y a eu beaucoup d'usages anciens de cette flore, beaucoup de cueillettes. C'est un territoire qui a beaucoup vécu de ça en fait anciennement, de ce qui était récolté.
On peut citer quelques plantes qui étaient exploitées et plus maintenant.
Et ben par exemple moi qui pour parler de ce que moi je connais bien, comme je travaille sur les teintures, donc il y a une espèce qui s'appelle le bois roux. Cotinus cogigria, qu'on voit un peu partout, qui est très très beau à l'automne, qui a des feuilles qui deviennent vraiment violettes, flamboyantes, et qui a été récoltée et beaucoup exploitée jusqu'au début du XXe siècle pour la teinturerie et la tannerie. Et donc, disons que c'était un peu des activités secondaires. Les gens étaient à la fois paysans et à la fois, ils avaient des activités de récolte en sauvage. Ils cueillaient ce bois roux, ils en faisaient des fagots et ça allait notamment à Romans pour la teinture du cuir. Mais ça a vraiment été une espèce très importante pour la teinture.
Je voulais savoir, qui dit plante sauvage dit plante inexploitable en culture?
Disons que je pense qu'il y a certaines plantes comme celui-là, par exemple, où il y a eu un moment, il y a eu des tentatives de la mettre en culture, mais il faut que ce soit sur un territoire où, au départ, la plante a des facilités à grandir, puisqu'en plus, là, c'est un arbuste, donc on ne peut pas non plus la produire très, très rapidement. Après, il y a aussi, dans le projet, par exemple, de Vincent Paltera, là, qui est aussi dans notre CA, il y a aussi l'idée, parfois, de cultiver des plantes qui au départ sont plutôt des plantes sauvages, mais que finalement on a besoin d'utiliser plus, de manière plus importante, ou qui ne sont pas tout à fait dans leur biotope pour pouvoir les avoir de manière un peu plus abondante. Donc par exemple, Vincent cultive un peu de rhème des prés, qui n'est pas une plante qu'on trouve beaucoup ici dans la vallée, mais qui a plein de propriétés médicinales. Et donc on peut aussi cultiver, disons décider d'installer un groupe de plantes habituellement plutôt récoltées de façon sauvage pour les avoir en plus grande quantité. Ça dépend un peu des plantes en fait.
Huh? How are you? Try to remember, but my feelings can't know for sure. Try to reach out, but it's gone. Lucky star.
Toi, tu travailles énormément le bois, le buis en particulier.
Ouais.
Quelle est ton inquiétude par rapport à la propagation de la pyrale ?
La pyrale du buis, moi je vois ça avec un regard très lointain et très large, que la nature elle s'occupe de tout et c'est un peu embêtant, c'est embêtant tout court pour ce qui est actuel. C'est-à-dire que ouais, il y a des buis qui se font dézinguer, désosser jusqu'au tronc. Et qui meurt. En revanche, moi j'ai une confiance extrême ou importante, j'ai une confiance importante dans le fait que ces buis, s'ils ont envie de revenir, ils reviendront. Et la pyrale, elle fait que passer, elle passera. Et il y a des oiseaux qui vont s'en occuper. Et je souhaite de tout cœur que. Qu'elle trouve refuge ailleurs, ce papillon qui trouve refuge ailleurs, ce papillon. Voilà, après, c'est très mystérieux. J'ai un endroit là à côté de chez moi, il y a deux buis qui se sont fait attaquer au printemps dernier et qui se sont remis, paraît-il que la pyrale va revenir et les détruire. Et il y en a un autre immense gros à côté qui n'est pas touché du tout. Donc, Mac Fatoum là...
Un buis qui est soi-disant attaqué, voire mort, son bois n'est pas exploitable.
Carrément.
Si.
Ouais. Mais bon, après, le buis, pour l'instant, ce n'est pas une espèce rare dans notre coin. Et le buis que j'utilise, je le récupère les chutes de coupe ONF. Donc ça part dans le fossé, tout le buis qu'on coupe actuellement, ceux qui ont besoin de buis... Faut aller se promener, quoi. Je coupe jamais d'arbres vivants, moi.
Alors, l'ONF, je crois savoir que quand il coupe un buis, il le laisse vertical, hein, de manière à ne pas souiller le bois, à ne pas le noircir, hein, s'il est couché.
C'est vrai ? Bon, moi, je les trouve dans tous les sens, mais...
D'accord.
Mais s'il est un beau buis, peut-être qu'il le laisse comme ça, ouais. Mais, des branches et tout. Et voilà, donc la pyrale, après le passage de la pyrale, il y a des tas de buis à récupérer, autant choisir les plus beaux. Moi ça va, j'ai ma dose. Mais je sais qu'il y a des gens qui en cherchent.
Ouais, il y a même une annonce.
Il y a une annonce d'un facteur de flûte qui cherche des buis de 12 cm de diamètre.
C'est costaud, hein
ça... C'est costaud, et je sais pas s'il veut fendu ou pas. Je pense que pour des flûtes, ça peut être fendu.
On va parler de sources et racines. Donc, on a expliqué un peu le titre hein, au départ.
On va peut-être leur expliquer, ouais, c'était pas clair. Hein.
Si,
c'est clair, mais c'est bien de le développer.
Je voulais développer un point, c'est qu'on est un peu underground dans tout ça. Sources et racines, c'est pas mal sous terre. Et donc, c'est les savoir-faire souterrains qu'on remet au goût du jour, parce que sous terre, ça fait pousser des choses. Il y a plein de petites plantes et des pousses pour le printemps et pour l'année.
Il y a un sujet
qui va comme complément.
C'est super. Je voulais juste ajouter un truc, et comme Colin l'a noté, voulais dire que donc sources et racines, en fait, on a un sous-titre qui serait important de dire, de souligner. C'est botanique. Attends, on recommence.
Sciences naturelles, ethno-botanique, patrimoine. Et savoir-faire.
Donc c'est notre sous-titre, et je pense que ça dit bien ce qu'on veut mettre en lien.
Vous êtes en recherche donc de savoir-faire toujours ?
Nous, on est intéressés par tous les gens qui font des choses, et surtout avec ce qu'il y a autour, et qui essayent par eux-mêmes.
Et vive l'empirisme, voilà.
Voilà, l'exploration par le faire et par le... Et on a envie, on va voir dans quelle énergie les choses se font. C'est une association qui a comme vocation de porter des choses qui émergent naturellement. On ne va pas se mettre un calendrier productif à tout prix. Notre but, c'est de porter des projets qui se nourrissent par eux-mêmes. Mais on aurait envie, de donner des occasions pour se faire se rencontrer des gens qui travaillent avec des savoir-faire, avec des techniques. Moi, je ferais bien un petit marché de la connaissance, par exemple, autour de la transformation des plantes. Pas pour faire de la cuisine, mais plutôt pour faire des objets, de la vannerie, des matériaux, voire même aller un peu plus loin et travailler aussi sur la transformation des minéraux. On a fait par exemple une fois un four à chaud, ça pourrait être intéressant de retravailler sur la transformation des métaux. Enfin voilà, ça peut aller assez loin en fait.
Des écorces.
Voilà.
Et puis l'osier aussi. Il y avait beaucoup de personnes qui s'occupaient de cueillir l'osier, ce qui se fait de moins en moins. Donc la végétation envahit de plus en plus, je pense surtout au bord de la Drôme. Ouais. Vous en avez rencontré des vanniers dans le Diois ?
Oh, il y en a, ouais. C'est Annie. Il y a des gens qui font des très beaux paniers, ouais.
Mais en dehors de paniers, est-ce qu'il y avait d'autres, par exemple les raquettes pour marcher sur la neige, toutes ces choses-là ?
Ça serait une super bonne idée de faire un petit chantier fabrication de raquettes. Moi, j'aimerais beaucoup.
Et je parlais de cintrage de bois tout à l'heure, c'est encore le cas. Finalement, la vannerie, c'est ça aussi, d'ailleurs.
Ouais. Et oui, en fait, c'est un recueil de compétences, de connaissances, un vivier de techniques. Ce désir-là, moi, je pense toujours à la laine, parce que c'est une question que je pose depuis des années. Qu'en est-il de la laine et de son exploitation aujourd'hui ? Est toujours trop coûteuse pour l'économie d'aujourd'hui ?
Alors sur la laine, donc ça, c'est, disons, c'est un chapitre un petit peu particulier, parce qu'en fait, ça fait déjà quelques années sur le territoire qu'on travaille sur ça. On a créé alors avec Margot Job-Duval, qui est à Glandage, qui est éleveuse, et moi-même, on a beaucoup, porté des projets pour essayer de transmettre autour du fait qu'on pouvait utiliser la laine. Donc évidemment, il n'y a pas que nous, hein, y a plein d'autres personnes qui peuvent s'intéresser à ce sujet. Mais disons que nous, on a proposé au sein du CFPPA une formation Vivea, donc qui peuvent être financées pour les éleveurs, pour qu'ils puissent s'initier à ce que représente une filière laine, à la mise en place de cette filière, à la transformation de la laine, depuis la transformation de la laine, donc depuis la tonte, pardon, en passant par la transformation et jusqu'à la teinture. Et donc cette formation Vivea, elle a eu lieu l'année dernière, elle a eu lieu cette année, et j'espère qu'elle continuera à avoir lieu, parce qu'en fait, on a beaucoup, œuvré pour que cette information circule. Et donc là, c'est un peu en dehors de l'association, mais c'est vrai que l'association, en l'occurrence sur ses racines, elle peut très bien aussi proposer des temps plus initiation ou découverte à d'autres moments. Pour l'instant, on n'a pas vraiment, j'ai pas été sur ce sujet-là puisqu'il existait déjà porté par le CFPPA.
Et puis une chose importante par rapport au cours d'eau qui existe dans le territoire de du Diois, il y avait la pratique aussi de l'utilisation de la force de l'eau pour la motricité et le travail des moulins, par exemple. Ça, c'est un sujet auquel vous vous intéressé peut-être aussi.
Ouais, c'est un avec c'est un volet de patrimoine. Des architectures rurales aussi liées, comme tu dis, à l'eau, au moulin, le moulin de l'Aube. Il y en avait de partout. Ouais.
Et puis on pense à toutes ces entreprises qui marchaient avec la motricité de l'eau.
Exact.
Et ça, c'est un travail
Ça fait partie des sources d'intérêt, des centres d'intérêt de l'association, entre autres.
Mm. Ouais. En fait, c'est sûr que des sujets qui peuvent être comme celui-là, à la fois au croisement entre la technique, l'histoire et la connaissance du paysage, il y en a un certain nombre, puisqu'en fait, justement, je dirais, avant le XXe siècle, disons, pour faire un raccourci un peu simple, on avait beaucoup... on appuyait toujours la mise en place d'une technique par rapport aux possibilités du territoire. Et peut-être que c'est encore le cas pour certaines choses maintenant. Bon, après, maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont externalisées. Il y a beaucoup plus d'interactions et aussi de délocalisation, disons, des produits et des savoir-faire de circulation. Il y en a toujours eu. Hein. Je ne dis pas du tout que c'était un vase clos avant. Mais c'est sûr que c'est une composante qui est intéressante. Il y a aussi toute l'architecture en terrasse, la façon dont on a aménagé le territoire pour pouvoir faire la production agricole nécessaire pour avoir une autonomie alimentaire sur un territoire comme ici, ou partielle, ou plus que partielle, enfin un peu plus importante. Mais en tout cas, il y a la gestion des terres agricoles, il y a la manière dont on réfléchit le paysage et le territoire pour que la survie et la vie des gens soient possibles dans cette vallée. Et ça, c'est aussi des choses intéressantes. Comment on regarde un paysage et ses ressources, et comment on essaye de les préserver en empêchant que ça s'effondre, en canalisant l'eau, en irriguant, en mettant en place des canaux, comme c'est le cas dans les jardins du Perrier, par exemple. Ça, c'est très, très intéressant, l'histoire de ces terres utiles qui ont été valorisées. Et en fait, on se rend compte que c'est aussi des personnes ressources. Il y a encore des gens qui sont les personnes ressources pour ouvrir et fermer les écoutilles, encore tout ça. Et ça, c'est des choses qu'il faut peut-être plus observer, parce que tant que ça marche, on est tous très contents, on ne s'en rend pas compte. Et quand ça ne marche plus, en fait, on perd une capacité, et la remettre en place, c'est vachement difficile, en fait. Une fois qu'il n'y a plus personne qui entretient les canaux, une fois que l'eau ne circule plus, une fois que plus personne sait ouvrir et fermer et répartir l'eau, il n'y a plus de jardin, en fait. Enfin, voilà, et donc c'est toutes ces choses-là qui sont intéressantes. Comment on fait vivre de manière équilibrée les ressources et les gens, voilà.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que beaucoup de choses ont disparu du fait d'un défaut de transmission, d'un savoir-faire ? Est-ce que ça, c'est votre rôle ? Vous vous êtes approprié ce rôle d'essayer de retrouver une transmission de savoir-faire ?
Nous, on va peut-être pas être... Après, on n'est pas très ambitieux, je dirais, nous, pour l'instant. Ouais. On est plus sur nos pratiques, sur ce qu'on sait faire. On a l'espoir, en tout cas, d'être curieux. Mais... on n'a pas encore de rôle vraiment, enfin je dirais, on n'est pas forcément sur une action vraiment de sauvegarde très très marquée, parce qu'en fait je pense qu'il faut que l'association mûrisse, qu'elle chemine, ouais. Mais on le fait à titre individuel, chacun sur des sujets où on se sent capable.
Ouais, et puis c'est surtout un appui de cognition, quoi, de la faculté de connaître et de penser la nature. Par rapport à ce dont on parlait à l'instant, ça m'évoque la transformation des paysages où, en fait, il y a 50-60 ans, par exemple à Boulk, toutes les pans de montagne s'étaient coupées pour les charbonnages. Donc le paysage est complètement transformé. Et du coup, il y a des évolutions. Pareil qu'il y a deux siècles, il n'y avait pas un seul arbre sur les pans de montagne. Donc c'est, ouais, c'est la connaissance, ça a quelques vertus. Et plus on connaît, plus on a conscience de la nature, plus on va en faire attention aussi, j'espère.
J'imagine aussi que vous allez vous renseigner auprès du musée, par exemple, pour des archives ou un peu l'histoire du territoire.
Ça arrive.
Oui, ça peut arriver que sur une technique ou sur une plante. Alors, il y a le musée, mais il y a d'autres sources aussi. Par exemple, sur les répartitions de plantes, il y a le Conservatoire botanique de Gap, qui a des archives énormes sur les répartitions d'espèces et aussi sur les usages anciens, des articles scientifiques. Donc, suivant les sujets, on va effectivement... Mais j'ai envie de dire, tout ça, c'est pas... On n'est pas une grosse entreprise, hein. Et donc tout ça se fait pas de manière systématique, on aimerait bien, malheureusement c'est aussi une histoire de comment s'organiser pour tout faire en même temps, mais en tout cas ce qu'on fait c'est surtout se concentrer sur le faire, ce qu'on va réaliser, un projet précis, et puis en fait en travaillant, en faisant à deux, à trois, etc., il y a quelque chose qui émerge et là on cherche des sources, les trucs viennent un peu à nous aussi naturellement parce qu'on en parle.
Les rencontres font le chemin, ouais.
Mais
en occasion,
cas,
quoi. Ouais. Autant il y a des sujets, on n'a même pas pensé, et puis nous tomberons dessus avec plaisir dans l'année, quoi.
Ouais.
Vous envisagez un blog ou un site internet ? Non, c'est pas du tout de votre envie.
On verra, ouais. On va peut-être le faire. Ce qu'on voudrait, là, déjà, c'est qu'il y ait du monde. Si les gens veulent venir à l'AG, ils sont les bienvenus. On a une adresse mail, il suffit de s'inscrire par mail.
Tu peux peut-être nous l'indiquer ?
Ouais, voilà.
Sur ses racines. Tout attaché, @gmail.com.
Au pluriel.
Alors, au pluriel, oui. Et donc, cette assemblée générale qui aura lieu le 8 mars vous permettra peut-être d'avoir des nouvelles rencontres et de nouvelles connaissances. C'est votre souhait, en tout cas.
Oui, bien sûr. Tout le monde est chaleureusement invité. On parlera des événements qui ont eu lieu depuis la création de l'association en septembre. Des envies pour la suite, pour cette année, et des événements déjà prévus. Et voilà, quoi, une AG sympathique.
Suivi d'un événement internationalement reconnu.
Reconnu et attendu, majeur. Et
attendu, ouais. Attendu par tous les Diwas bien informés.
Par plein de gens.
Et qui est ?
Qui est la parution d'un livre que j'ai écrit et imprimé, édité. En 10 exemplaires, l'original, à base de gravures sur bois et de couleurs végétales, principalement. Comme je disais tout à l'heure, sur les bons conseils, recettes de Marie.
Fabriqué à la main par Colin.
Fabriqué à la main.
De toutes pièces.
Sauf le papier.
Sauf
je
le papier.
Cherche des techniques, je vais en trouver. Des fabrication recettes. Du papier local.
Justement, il a existé dans le Diwa, une fabrique de papier ?
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas, d'accord. Non. Mais il y a moyen, peut-être.
Je sais qu'il y a des produits. Il y a des gens qui ont fabriqué du papier. On m'en a donné, d'ailleurs, Marianne.
Moi, j'ai
une
des
Christelle
recettes.
Aussi, qui a fabriqué du papier à base de pelure d'oignon. Ouais. Je n'ai jamais vu celui-là. Ouais. Curieux, ouais. Qu'est-ce que j'allais dire ? Donc, le livre, voilà, je suis en train de finir les reliures. Et ce sera une surprise et voilà, ça sera présenté la première sortie officielle, non officieuse, lors de l'AG, à la fin de l'AG. Donc jeudi 8 mars, salle des sociétés à 18h30, rue Joseph Reynaud.
Et
avec des gravures, je vais présenter des gravures, les différents outils que j'ai utilisés en mode réduit, quoi. Mais tout ça, c'est avant un repas partagé. On se fait un buffet, quoi, en fin d'AG. Avec les produits que vous voulez préparer par nous, par vous.
Eh bien, Marie et Colin, merci d'être venus nous parler donc de cette Assemblée Générale.
Adi.
Voilà.
Merci Yves.
Eh bien, merci et bonne soirée à vous.
Merci Yves. Au revoir.
Interview. 1 Terre.